France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it? Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
It's an art. Quand même, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Hey.
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back, with one in his stomach. Nobody important.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, une soirée avec Jean-Claude Vanier. Bonsoir. Après avoir passé deux semaines en compagnie de Serge Gainsbourg, nous serons ce soir avec un de ses compagnons de route les plus importants. J'ai nommé l'excentrique et élégant Jean-Claude Vanier, qui en dehors de ses activités dans la chanson, n'a pas dédaigné la musique de film. Il sera notre invité pour une rencontre où il sera question très éclectiquement de Michel Magne, de Philippe Garrel, de Michel Gondry, avec lequel il vient juste de travailler, ou encore avec le duo d'enfer formé par Eric et Ramzy. Et puisque nous sommes en plein Festival de Cannes, nous poursuivrons avec les échos de la Croisette rameutée par Benoît Basiricot, envoyé spécial de son site cinésique et par extension de Cinéma Song, qui nous fera sentir les parfums musicaux et cinématographiques d'un festival qui va bientôt toucher à sa fin. Tandis que Charles-Pierre Vallière fermera le banc avec ce soir, dans sa chronique Essentiel BO, Nick Cave et Warren Ellis opposés à Michael Giacchino chez Brad Bird. Mais en attendant, mon actualité dans les salles et à Cannes, c'est d'abord ceci. Un extrait très romanesque, très musique de film, on pourrait dire, un peu à la Georges Delerue. C'est un extrait de la bande originale de Trois souvenirs de ma jeunesse, le dernier film d'Arnaud Desplechin, et la musique en est signée Grégoire Hetzel, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans cette émission, qu'on avait même reçu l'an dernier, à la même époque d'ailleurs, pour avec Mathieu Amalric, pour la musique du La Chambre Bleue, le film de Mathieu Amalric d'après Simenon. Et cette fois-ci, c'est Arnaud Desplechin avec lequel Grégoire Hetzel a déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment pour Roi et Reine et Le Conte de Noël. Et Trois souvenirs de ma jeunesse a été à la fois présenté à Cannes il y a quelques jours à la quinzaine des réalisateurs, une fois n'est pas coutume pour Arnaud Desplechin qui n'a pas eu les honneurs de la compétition, ce qui est peut-être un peu dommage vu la qualité du film, et qui sort et qui est sorti hier dans les salles mercredi. Un des plus beaux films de Arnaud Desplechin à mon sens, quelqu'un qui maintenant quand même travaille depuis 25 ans dans le cinéma français et qui imprime sa marque et qui laisse vraiment une œuvre tout à fait singulière, même si elle est d'une certaine façon dans une tradition qu'on connaît, voilà, de, notamment truffaldienne. Il s'est souvent réclamé de Truffaut, mais ça n'est certainement pas la seule référence ou la seule lignée à laquelle on peut lier Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin qui est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui a un lien très fort avec la musique, à la fois la musique de film au sens où on a pu l'entendre à l'instant, mais également des musiques préexistantes qui coexistent souvent très très bien dans ses propres films. En tout cas, pour en revenir à Trois souvenirs de ma jeunesse, c'est un peu, donc, ça a été dit à plusieurs reprises dans la presse, un prequel, comme on dit aujourd'hui, de comment je me suis disputé, film qu'il a réalisé il y a presque 20 ans. Un prequel, c'est-à-dire certains des personnages de ce film, mais dont on voit la genèse et la jeunesse. En l'occurrence, c'était surtout le personnage de Mathieu Amalric et celui d'Emmanuel De Vos qu'on retrouve beaucoup plus jeune dans ce film, avec des acteurs inconnus qui sont absolument formidables, notamment l'acteur principal qui a un côté Charles Denner jeune, avec ce côté fiévreux, et puis l'excellente musique de Grégoire Hetzel qui peuple le film, voilà, de ses effluves romanesques, qui est très avec une dominante de cordes. Je disais Georges Delerue, qui est aussi cité à certains petits moments dans la partition générale du film. En tout cas, c'est une réussite totale, à la fois cinématographique et musicale, ce film. Et je vous engage absolument à aller le voir. On a beaucoup glosé justement sur son absence en compétition à Cannes. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec Benoît Bazirico, qui est sur place. C'est vrai que manifestement, vu ce qu'on entend sur les films français de la compétition, il n'aurait peut-être pas été absurde que Desplechin y soit plutôt que certains autres. Mais bon, ce sont les aléas du Festival de Cannes. En tout cas, je vous propose, pour célébrer la sortie de ce film et la présentation de ce film à Cannes, de retrouver un autre extrait un petit peu plus long et un petit peu plus sombre. Le film flirte avec des... Voilà, j'ai dit d'ailleurs que ça faisait beaucoup... en tout cas, que le film racontait vraiment l'histoire des deux personnages principaux, de comment je me suis disputé avant, comment je me suis disputé. Mais il y a également deux autres souvenirs qui sont enchâssés au début du film, donc ça donne aussi une autre dimension romanesque encore plus, puisqu'il y a un des moments du film qui flirte tout à fait avec le cinéma d'espionnage que Desplechin aime aussi, qu'il avait pratiqué dans La Sentinelle, son premier long métrage. Je vous propose d'écouter un autre extrait, donc je le disais, plus sombre, de la partition de Grégoire Hetzel pour Trois souvenirs de ma jeunesse, le dernier film d'Arnaud Desplechin.
Thank you.
Un deuxième extrait plus tellurique, celui-ci, de la bande originale de Trois souvenirs de ma jeunesse, signé donc Grégoire Hetzel, qui est vraiment un des compositeurs les plus intéressants, notamment dans la maîtrise de l'orchestre aujourd'hui en France. Et je voulais citer quand même le nom des deux comédiens principaux. Il y a Mathieu Amalric qui fait un petit rôle, on va dire, au début, comme un clin d'œil à Comment je me suis disputé. Mais les deux comédiens principaux, c'est Quentin Dolmer, formidable donc comédien, et la non moins formidable Leroy Le Collinet, deux comédiens totalement inconnus que Desplechin s'est échiné à découvrir. Il a vraiment bien fait, parce que c'est fait partie de la grande réussite de ce film, Trois souvenirs de ma jeunesse, qui est d'ores et déjà, en ce qui me concerne en tout cas, un des plus beaux films de cette année cinématographique. Petit clin d'œil à Serge Gainsbourg pour commencer cette partie d'émission consacrée à Jean-Claude Vanier, un extrait d'une musique co-signée par Jean-Claude Vanier et Serge Gainsbourg au début de leur collaboration en 1969. C'était Paris n'existe pas, un film qui a été un peu redécouvert grâce à sa sortie en DVD ces dernières années. Un film signé par le critique de cinéma Robert Benayoun, qui n'a réalisé que deux films dans sa vie. Le second, ça s'appelait Sérieux comme le plaisir, dans lequel d'ailleurs Jane Birkin intervenait. Et dans ce film, il y avait également Serge Gainsbourg comme acteur principal, ou en tout cas parmi les acteurs principaux. Jean-Claude Vanier, donc on l'a dit, on l'a entendu d'ailleurs il y a deux semaines dans cette émission, il a été un des complices de Serge Gainsbourg majeur entre la fin des années 60 et le milieu des années 70. Vous pouvez d'ailleurs réécouter les deux émissions consacrées à Gainsbourg en podcast ou en streaming sur le site de France Musique et sur plus particulièrement la page Cinéma Song. Et ce soir, on va s'intéresser à Jean-Claude Vanier hors Gainsbourg et à Jean-Claude Vanier dans la musique de film, dans le cinéma, puisqu'il a été, il est toujours un compositeur de musique de film également. En dehors de ses expériences dans la variété qui ont été très nombreuses pour lui-même et pour les autres. Et on va le retrouver tout de suite, Jean-Claude Vanier. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines pour un entretien qu'il m'a donné chez lui, dans l'arrondissement de Paris. On va le retrouver tout de suite évoquant ses premières armes dans la musique de film. En réalité, ce n'était pas pour Serge Gainsbourg, mais c'était pour Michel Magne, avec lequel il a collaboré dans la deuxième moitié des années 60. Tout de suite, Jean-Claude Vanier.
J'avais été remarqué par Bernard Gérard, parce qu'en fait, j'avais fait une orchestration et une chanson pour Alice Donna. C'était la première orchestration que j'ai jamais écrite de ma vie. C'était extrêmement maladroit, à mon avis. Mais ça se trouve encore. Et Bernard Gérard, qui était un orchestrateur et un compositeur hors pair, travaillait pour Michel Magne. Et il m'a emmené à Hérouville. Et Michel a vu que c'était... Bon, très franchement, je ne savais rien faire quand je suis arrivé chez lui. Enfin, il s'est dit, on va pouvoir faire quelque chose. Et je suis resté 6 mois chez lui. J'ai fait 2 films par mois. En fait, c'était une énorme usine. Et puis, j'ai tout appris sur place. Mais comme Michel n'écrivait pas une note de musique, jamais, il avait toujours au Colombier, ou Bernard Gérard, ou Éric de Marsan, ou des gens comme ça, ou moi, qui écrivaient. C'était une école formidable qui n'existe plus aujourd'hui. C'est que moi, j'avais la chance de pouvoir écrire mes conneries le matin et les entendre l'après-midi. C'est-à-dire que je pouvais corriger. J'écrivais n'importe quoi pour 4 trompettes et 18 grosses caisses. Je l'entendais le soir pour voir ce que ça donnait. C'était... Alors évidemment, je me lançais dans des élucubrations totalement hasardeuses, puis j'ai rencontré les musiciens comme ça. Et c'était une école formidable, qu'aujourd'hui n'existe plus, parce que dans les conservatoires, malheureusement, on n'a pas le loisir d'entendre ce qu'on écrit.
Quand vous dites que Michel Mann n'écrivait pas une note, ça veut dire quoi? Qu'il ne faisait rien du tout? Ou c'est vous qui faisiez tout? Ou il avait quand même des idées que vous mettiez en musique, si je puis dire?
Je crois qu'au départ, il était musicien. Je suppose qu'il avait la flemme, et puis surtout, il pratiquait ce qu'il appelait la politique du jambon, c'est-à-dire, il invitait les producteurs à dîner pour qu'ils culpabilisent s'ils ne le prenaient pas comme compositeur. Il faisait beaucoup de com, c'était son boulot. Puis, de temps en temps, il écrivait 2-3 mélodies quand même, mais il n'a jamais écrit vraiment pour l'orchestre, j'ai jamais vu faire ça.
Si vous vous souvenez, quels sont les films sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler quand vous étiez chez Magne?
Ah, je crois que c'était des très mauvais films, parce que Michel, il faisait tout ce qu'on lui proposait. Donc il y avait pas mal de OSS 117, des machins comme ça. On a chuté sur Barbarella, je crois qu'on nous l'a refusé, la musique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Un truc pour Bunmel, alors j'étais un peu scié, parce que la musique que j'avais faite était super. C'était pour des guitares, et puis on m'a dit après, de toute façon, Bunmel était sourd. Alors, donc j'étais un peu quand même, j'étais super content, j'étais jeune, je me dis merde, travailler avec Bunmel. Et puis, vous dites des conneries comme ça, vraiment des trucs pas bien du tout.
Ça devait être Belle de Jour, je pense, hein, de Bunmel, non?
Oui, c'est ça, exactement, Belle de Jour. Et je sais pas qui a fait la musique finalement.
C'est une musique de Michel Mann, donc de vous, sans doute, qui reste...
Ah, non, c'est pas... On l'a loupé et on s'est fait refuser. On s'est fait refuser la musique.
Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a très peu de musique dans le film, dans mon souvenir, en tout cas, en n'ayant pas revu le film récemment. Et alors, donc, ça a duré 6 mois, vous dites. Et il y a quand même une chose qui n'est pas de la musique de film, mais que vous avez fait pendant cette période, et qui est en tout cas intéressante par rapport à la musique instrumentale, c'est ce travail que vous avez fait avec Martial Solal, pour un disque que vous avez travaillé avec Martial Solal comme soliste.
Oui, alors là, c'était des thèmes de musique de film déjà existants. Magne, il était extrêmement paresseux, sûrement comme tous les musiciens. On est tous un peu comme ça, on recycle en permanence des vieux trucs. Et lui, il a pris des thèmes de musique de film, et puis il a changé les noms. Et puis il m'a filé les thèmes, il m'a dit, voilà, il y a une dizaine de trucs, tu me fais 2 faces d'un LP, et puis tu écris pour Martial Solal. Alors évidemment, j'étais extrêmement impressionné. J'avais vachement le trac parce que Martial Solal, pour moi, c'était un personnage énorme. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est, mais à l'époque, c'était un grand pianiste, quoi. Surtout une façon, pas seulement un instrumentiste, il inventait un style très particulier. Et puis, il avait des très bons musiciens avec lui, Trussardi, Rovert, Bellonzi. Et puis, il y avait les grands d'opéra. Donc, je me suis lancé dans des trucs absolument... Michel m'avait dit, fais comme tu veux, mais que ça soit vraiment ébouriffant, quoi. Donc, j'ai fait ce qui me passait par la tête, c'est-à-dire pas grand-chose de... C'était pas de maloufoque, quoi. Mais finalement, en le réécoutant, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il est ressorti, je trouve ça plutôt rigolo. Mais je suis assez fier de l'avoir fait, parce qu'en plus, j'étais très jeune à l'époque. Je crois que j'avais 22 ans, ou 21 ans, je sais plus.
Il y a une chose qui m'intrigue dans votre parcours, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le demander, c'est que vous êtes, on va dire, autodidacte, enfin je ne sais pas si c'est le mot qui convient, en tout cas vous n'avez pas vraiment une formation académique, et en même temps vous avez très vite développé des qualités de compositeur et d'arrangeur assez sophistiquées. Donc comment ça s'est fait, cette transition entre quelqu'un qui apparemment n'était pas dans une formation musicale classique et malgré tout ce développement très rapide?
Mais d'abord, c'est pas aussi étonnant que vous le pensez, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs, et même des compositeurs classiques, qui n'ont pas fait d'études musicales. Par exemple, Schoenberg, tout simplement. Et d'autres encore, dans la période romantique. Mais ça s'est fait tout seul de telle façon que je me suis créé mon propre système. La musique, c'est un système comme un autre. C'est une espèce de langage avec sa cohérence. Moi, j'aime bien que ça aille jusqu'à l'absurde. Donc, c'est un peu, quand on dit que c'est des maths, c'est pas exactement ça. C'est plutôt des raisonnements. Une espèce de raisonnement musical. Et j'ai exploité mes défauts. C'est-à-dire que j'ai des défauts qui sont plus intéressants que ceux des autres, mais mes qualités ne sont pas démentées. J'ai exploité mon mauvais côté, et puis ça a donné ça.
Quels étaient vos rapports avec le cinéma à cette époque, quand vous étiez chez Magne, ou même avant vous alliez beaucoup au cinéma. Vous étiez déjà intéressé un peu par la musique de film, ou c'était un hasard complet?
Bon, chez mes parents, on allait presque jamais au cinéma. C'était le Bacon Palace ou le Casino de Bacon. Il y avait l'un ou l'autre. Il y avait des attractions au moment des publicités, vous savez, à l'entracte. Et on n'a jamais été voir des trucs bien ébouriffants. C'était des péplums, des machins comme ça. Je ne faisais pas tellement attention à la musique de film parce que je pensais que, je ne sais pas, je voyais pas ça bien. Je ne comprenais pas comment ça s'était fait, quoi. Je ne savais pas ce que c'était qu'un studio d'enregistrement. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un orchestre. Et... quand je suis arrivé dans le cinéma, il m'a semblé que c'était éblouissant, j'ai trouvé, moi, de pouvoir faire ça. Parce que dans le domaine de la chanson, qui est tout à fait autre, que je ne connaissais pas aussi bien, j'avais l'impression que c'était du bas de gamme. En fait, si on veut la chanson, moi j'adore la chanson, mais je pensais que le travail que faisaient les gens à l'époque ne m'intéressait pas, tout simplement. Je trouvais ça vraiment pas bien du tout. C'était en pleine période des yéyés, tout ça. Alors moi je ne voyais pas ce que je pouvais faire là-dedans. Et puis finalement je me suis pris au jeu, j'adore la chanson. Et le cinéma, je trouvais plus aristocratique. En y réfléchissant, je n'ai pas voulu creuser ni l'un ni l'autre. Je suis resté un petit peu de faire un petit peu tout ce qui me passait par la tête, quoi. Mais pas spécialement du cinéma.
formidable inventivité de Jean-Claude Vanier, son humour également, un musicien qui n'est jamais ennuyeux, c'est pas la moindre de ses qualités. Jean-Claude Vanier qui est notre invité ce soir et qu'on a entendu donc évoquer ses années de jeunesse avec Michel Magne notamment. À l'instant, donc, on écoutait Le Papier Tue Enfant, un extrait de son album instrumental enregistré en 72 mais sorti beaucoup plus tard dans les années 2000. L'Enfant Assassin des Mouches, qui n'est pas une musique de film, c'est pas du tout un album de musique de film, mais c'est un album instrumental qui s'apparente par certains côtés à la musique de film. Et puis auparavant, un extrait d'un autre album, donc ressorti également dans les années 2000. Martial Solal joue Michel Magne avec des très beaux arrangements de Jean-Claude Vanier, un extrait donc qui s'appelait Air Liquide. Voilà, on va retrouver. Alors Jean-Claude Vanier, je tiens à le préciser, vous pouvez aussi le réécouter dans l'émission de Laurent Valero, le temps d'une chanson, en podcast ou en streaming également, puisqu'il est, Laurent Valero a diffusé le concert qu'il a donné, que Jean-Claude Vanier a donné il y a quelques jours à la Maison de la Radio, concert de chansons mais également avec quelques instrumentaux, et c'est une autre facette de Jean-Claude Vanier mais qui est tout à fait complémentaire à celle que nous explorons ce soir. Jean-Claude Vanier, on le retrouve tout de suite pour évoquer un film qui n'est plus très connu aujourd'hui mais qui s'appelait Les Guichets du Loup, pour lequel il a composé en compagnie de Mort Schumann une très belle musique, et puis d'autres cinéastes et notamment Philippe Garrel.
France Musique.
Comment vous avez abordé cette question quand même spécifiquement de la musique de film, une fois que vous étiez seul, autonome on va dire, complètement?
J'ai abordé avec une joie, et en même temps je pense que c'est aristocratique. Je le pensais, je ne le pense plus aujourd'hui. Mais je pensais que c'était assez chic de faire des musiques de film, d'autant plus que, si vous voulez, c'était le dernier refuge, surtout dans les années 80-90, où on était envahi par les synthés, où toute la production a chuté, on n'écoute plus ces machins-là, c'est immonde, quoi. On dirait un espèce de mauvais accordéon, et économique. Et le film restait le dernier bastion où on pouvait encore écrire pour l'orchestre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, et j'adore l'orchestre, et même dans la chanson, ça m'amuse aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi ça, c'est déjà pour ça. Ensuite, bon, les films, il y avait un film de Mitrani que j'ai bien aimé, que j'ai fait avec Mort Schumann. J'avais inauguré une formation qui était pas mal, c'était sur la guerre de 40, c'était les Guichets du Louvre, et la formation, c'était un orchestre à cordes avec un quatuor à cordes. Et en fait, c'était un dialogue avec la petite formation du quatuor et la grosse formation de l'orchestre. Et j'ai repris ça par la suite dans d'autres, pas films, mais dans des chansons particulièrement. Dans L'Enfant Assassin des Mouches. Et c'est une musique que j'aimais bien, ça. Et Mitrani lui-même, c'est un type formidable. Il est mort malheureusement maintenant. Je l'ai rencontré encore il y a quelques années. Et c'est un mec génial. Il était super sympa, ce mec-là. Vraiment.
Thank you.
On sent que vous n'avez pas vraiment voulu faire carrière non plus, entre guillemets, dans la musique de film, parce que bon, il y a des gens qui, on va dire, s'emploient à ça. Vous, j'ai l'impression que ça n'a pas été votre cas. Peut-être que c'est pas votre cas d'ailleurs dans aucun domaine spécifique, mais notamment dans la musique de film.
Bah dans la musique de film, on est obligé de faire carrière. Moi, je tiens pas du tout et ça s'est pas goupillé comme ça. Mais c'est très dangereux, la musique de film, pour un compositeur qui a du talent. Et parce que quand on commence à en faire une qui a du succès, on en fait deux, trois, quatre, et puis après, on en fait une tous les 15 jours. Et à partir de là, c'est beaucoup. Quand on fait quand même quelque chose comme une vingtaine de musiques de films par an, au bout du compte, je sais pas d'où on tire les idées, quoi. Et en même temps, si on n'accepte pas, eh ben, les mecs, ils vont voir d'autres. Quelqu'un d'autre, et puis vous êtes viré, mais en 2-3 ans, c'est fini, votre carrière est terminée. Donc finalement, cyniquement, le compositeur de musique de film, lambda, pas tous, hein, heureusement, se dit, bah, il vaut mieux, puisqu'on m'appelle maintenant, que je profite de la manne de maintenant, parce que demain, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Voilà, c'était un peu ça l'ambiance. Moi, je ne tiens pas à me spécialiser, je ne me considère pas comme un professionnel. Faire carrière, je sais même pas trop ce que ça veut dire. J'essaie de faire des choses nouvelles à chaque fois. Faire des choses nouvelles à chaque fois, ça se paye très cher parce que la nouveauté est toujours inquiétante. Par exemple, la plupart du temps, quand un compositeur, quand un metteur en scène, ça m'est arrivé avec Philippe Collin. J'ai fait une musique que je crois plutôt pas mal. Il était très déçu parce que c'était pas la musique qu'il avait l'habitude d'entendre par moi. Et en fait, après, je l'ai revu, il m'a dit, mais la musique me plaisait beaucoup, mais il a eu du mal à s'y habituer. C'est vrai que quand on est metteur en scène de film, on a passé des heures et quelquefois des journées, des semaines sur une scène, et qu'on a obtenu enfin ce qu'on voulait avec les comédiens, c'est des techniciens, tout ça, c'est un drôle de boulot. Hein. Qu'il y a un type qui s'amène avec ses trompettes et ses flûtes, et qui vous fout votre scène en l'air, en tout cas, même s'il ne la fout pas en l'air, il la modifie forcément, elle va signifier autre chose. Avec la musique c'est un truc très fort, ça casse tout. C'est comme un viol. Et alors ça fout la trouille, ça leur fout la trouille. Et je les comprends très bien. Mais finalement, toujours, ça m'est arrivé de m'accrocher avec des metteurs en scène comme ça, et puis finalement ils étaient super contents. Parce qu'il faut le temps d'adaptation. Parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils pensent que le public... est frileux. Or, je sais par expérience que le public, il attend des trucs formidables. Il attend pas qu'on lui serve des machins d'eau tiède qu'il a déjà entendu 2000 fois.
Il y a un cas un peu particulier, je dirais, dans votre filmographie, c'est Philippe Garrel, avec qui vous avez travaillé relativement plus tard, d'ailleurs, parce que c'était plutôt dans les années 90-2000. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans les années, à la fin des années 60, si mes renseignements sont exacts.
Ben oui, parce que mon beau-frère, c'était Bernard Dubois, qui avait fait Les Lolos de Lola, dont j'ai fait la musique aussi. J'aimerais bien ressortir ce film, parce que je trouve qu'il est marrant, c'est un petit film de révolté, avec Jean-Pierre Léaud, et cette révolte des jeunes qu'on était dans les années
70. Jean-Claude Vanier.
Elle n'est pas exactement la même que celle des ados d'aujourd'hui, ou des post-ados. Et je trouve ça mais assez déconnant, parce que je trouve qu'aujourd'hui, je suis sûr que ça pourrait avoir beaucoup de succès de ressortir ce film. Et au-delà, donc, il y avait toute une monde autour de lui. Il y avait Yann Dedey, qui est maintenant devenu un monteur super célèbre. Il y avait Brigitte Rouen, il y avait Philippe, donc, et puis un gars, Takis Candilis, qui était, je me souviens, il habitait dans un camion, et maintenant il est devenu président de la télé, ou je sais pas quoi de ce genre. C'est une carrière, alors là, pour le coup, c'est une carrière formidable. On était une bande de traîne-patins, comme ça, on s'amusait beaucoup, quoi. Et j'ai Philippe, je l'avais perdu de vue, et puis je l'ai retrouvé, là, il y a une dizaine d'années.
Il est très fidèle, parce que finalement, il travaille souvent avec des compositeurs d'une certaine génération, et qui sont souvent liés à des périodes de sa vie antérieure. Donc vous faites un peu partie de cette catégorie-là, finalement. Parce qu'il a travaillé avec Barney Whelan, ou avec des gens comme ça. Donc c'est des gens qu'il a connus à cette période-là.
Ben oui, c'était moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'étais d'autant plus surpris et agréablement surpris de le faire son film. Je ne me souviens plus lequel c'était, je crois que c'était Les Amants Réguliers, le truc sur la mai 68, que magnifique film. La même année j'ai fait La Trompe Montparnasse Infernale, qui était de l'antithèse, c'est-à-dire un film pour les ados totalement déconnant, et j'étais assez content d'avoir fait les deux en même temps.
Mais alors, parce qu'avec Garrel, il n'y a pas beaucoup de musique dans ses films, c'est une esthétique quand même assez, on va dire, assez minimale, et une orchestration, enfin, avec peu d'instruments, parce que dans La Frontière de l'eau, par exemple, c'est vous au piano et Didier Locoud au violon. Alors ça, comment ça se passe avec, c'est vous qui en discutez avec lui, c'est vous qui choisissez?
Alors, pour La Frontière de l'aube, on a vu pour la première fois, oui, parce qu'avant c'était simplement piano, ce qui m'obligeait à une certaine rigueur, parce qu'il faut que je trouve des mélodies qui vont. Le piano, c'est très très compliqué de mettre ça sur un film. Et il m'avait demandé de faire ça avec un violoniste. Il m'a dit, si tu veux, j'aimerais bien que tu le fasses avec Didier Locoud. Bon, moi, je refuse pas. Ça me terrifiait un peu, parce que j'avais deux options dans mon esprit. C'est ou la musique pseudo-romantique, violon-piano, sonate de je sais pas, Georges Schubert, quoi, un truc comme ça. Et ça me faisait très peur, parce que d'abord, je suis pas capable, et ensuite, c'est pas bien. Enfin, ça m'amuse pas. Je trouve ça pas bien sur un film d'aujourd'hui. Ou alors le jazz manouche, comme fait Didier. Et puis ça m'emballait pas non plus, parce que d'abord, c'est pas mon truc non plus. Et puis, je me voyais mal faire ça. Donc j'ai réfléchi, puis j'ai rencontré Didier Lideret l'été d'avant l'enregistrement. Et on a discuté, mais il dit, mais tu sais, t'inquiète pas, très gentiment, je le connaissais depuis longtemps, mais j'ai jamais travaillé avec lui. Si tu me demandes quelque chose, je le ferai, je m'adapte. Très bien. Donc j'ai essayé de trouver un style. J'ai écrit presque toute la musique en double corde, sur le violon, pour lui donner un côté un peu grinçant, arraché, comme ça. Ça raconte l'histoire d'une passion. Et des mélodies un peu particulières. Et donc, moi, j'aimais beaucoup cet enregistrement. On était tous les deux devant l'écran, on faisait la musique à l'image. On avait chacun une lampe sur nous. Et il y avait Philippe entre nous deux qui regardait. Il y avait le piano, le violon. Et c'était un moment, il y a eu 2-3 jours d'enregistrement avec Daniel Dehay, très bon preneur de son. Et c'est un très, très merveilleux souvenir, cette musique.
C'est un peu, on pourrait dire, un peu à l'ancienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça aujourd'hui, directement l'image, comme ça.
Ouais, c'est pire que ce que vous imaginez, parce que, en fait, on travaille directement sur la grosse pellicule optique, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gros trucs. Alors, c'est infernal, parce qu'aujourd'hui, on clique sur un bouton pour revenir au début, mais sur cette pellicule-là, ça met la longueur du morceau pour revenir au début. Si on veut recommencer, c'est terrifiant. Thank you.
le magnifique duo formé par Jean-Claude Vanier au piano et Didier Locoud au violon pour la musique du générique de fin de La frontière de l'aube de Philippe Garin, un film qui avait été présenté en compétition au Festival de Cannes l'année 2008, me semble-t-il. Et d'ailleurs, il faut préciser que Philippe Garin, cette année, a présenté son dernier film en ouverture de la quinzaine des réalisateurs, L'ombre à l'ombre des femmes. On en reparlera la semaine prochaine puisque le film sort en salle et on parlera là aussi de la musique de Jean-Louis Aubert et non pas de Jean-Claude Vanier. On peut signaler d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Arnaud Desplechin au début de cette émission, que dans Les Inrecuptibles, le dernier numéro des Inrecuptibles, on pourra lire un excellent dialogue entre Arnaud Desplechin et Philippe Garrel. Et puisque je reviens un tout petit peu en arrière, je voulais aussi mentionner que la musique de Grégoire Hetzel pour le dernier film d'Arnaud Desplechin est également disponible au téléchargement par les bons soins du label Crystal Records et qu'elle sera bientôt disponible également en physique. Alors Jean-Claude Vanier, on l'a entendu donc évoquer diverses facettes de sa carrière de musicien de film. Et on a écouté également là un extrait de la musique du film de Philippe Collin, ex-critique de cinéma devenu cinéaste à quelques reprises. Le film s'appelait Aux abois avec Lycée Moon et la musique en était signée Jean-Claude Vanier. Et également la musique du générique de fin des Guichets du Louvre de Michel Mitrani un petit peu plus tôt dans les années 74, co-signé donc par Jean-Claude Vanier et Mort Schumann. Alors Jean-Claude Vanier, on va le retrouver pour une dernière salve, toujours dans la rencontre que j'ai eue avec lui il y a quelques temps, pour parler de choses très très opposées ou en tout cas assez éloignées apparemment, notamment la tour Montparnasse infernale du duo Éric et Ramzy ou également du prochain film de Michel Gondry, Microbes et Gasoil, dont Jean-Claude Vanier a fait la musique. Parlons un tout petit peu de la tour à Montparnasse infernale, où là, effectivement, c'est un exercice totalement différent, parce que vous avez fait une sorte de, presque de pastiche, ou en tout cas de film d'action un peu dans la musique.
Oui, alors, c'était Jean Nemes qui avait fait ça, et les deux, Eric Judor et l'autre, son compagnon, Ramzy, ils voulaient une musique comique. Moi, je leur ai dit, les gars, une musique comique, d'abord, je déteste ça, la musique rigolote. Et d'autre part, je pense que ça ne marchera pas sur le film. Ce que je propose, c'est de faire une parodie de film d'action, comme si c'était vraiment de l'action à l'américaine, quoi. Et j'ai pris une formation comme ça, et j'ai fait une vraie musique de film de suspense, comme si on était dans une vraie casse de... comme si les gangsters arrivaient dans la cour Montparnasse, quoi. J'ai fait exactement ça, très au sérieux. Et je trouve que l'effet comique du décalage avec les deux comédiens, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace.
Vous aviez un peu de moyens aussi sur cette musique.
Ben oui, c'était Fechner qui avait produit. Là, il croyait beaucoup au film, d'ailleurs, qui a fait pas mal d'entrées. Il pensait qu'il inventerait une nouvelle forme de comédie. Il avait mis le paquet sur la musique aussi, oui, bien sûr.
Thank you.
Alors là, vous venez de travailler avec Michel Gondry sur donc son nouveau film qu'on verra bientôt, j'imagine. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? C'est quoi la spécificité de cette expérience à la fois musicalement et dans la relation avec Gondry?
D'abord, Gondry, moi, je le connaissais de nom et j'ai une fille qui est graphiste et qui l'adore, c'est son idole. Et je l'avais rencontré il y a très longtemps, une fois j'avais eu un prix à la SACEM ou je sais pas quoi de ce genre. Il travaillait avec toutes sortes de compositeurs, mais pas avec moi. Et puis moi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a plein de quelquefois des films que je vois, pas beaucoup. Il me dit, tiens, ce serait chouette que je rencontre ce gars-là. Et Gondry, il en faisait partie. Et puis, par un heureux hasard, l'été dernier, je reçois un coup de fil de son producteur qui me dit, est-ce que ça vous dirait de faire le prochain film de Michel Gondry? Alors là, j'étais vraiment très content. D'ailleurs, je lui ai dit, vous êtes sûrement un des seuls metteurs en scène à Paris ou en France qui m'intéresse. Donc, j'ai fait cette musique de film. Bon, il n'y a pas de comédien très connu. Ce sont deux adolescents, même assez jeunes, qui sont extraordinaires et qui vivent une aventure. Je ne vais pas raconter le film. Et j'ai fait une musique un peu rythmée, avec une guitare qui est assez prépondérante, qui est jouée par Denis Lable. On avait un peu réfléchi à la façon de le faire avant. J'ai travaillé en deux temps. J'ai d'abord enregistré les rythmiques et puis après j'ai mis un orchestre à cordes, rien d'autre, et un xylo, je crois. Et pour bien avoir le temps, j'ai enregistré la rythmique fin décembre et les cordes fin janvier. Si bien qu'il y a eu un décalage entre les deux et que Michel s'est affolé parce que il a eu l'impression que ça allait rester comme ça. Et à un moment donné, il m'a dit, oh, mais t'es sûr qu'il faut pas des cuivres, t'es sûr qu'il faut pas je sais pas quoi. J'ai dit, écoute, pas d'affolement. Laisse-moi faire. Et j'ai été très ferme et on a enregistré. Et finalement, j'ai vu que l'inquiétude s'est dissipée. Mais c'est évidemment un peu dur pour un metteur en scène d'attendre un mois avant que sa musique soit complètement terminée. Mais je crois que là aussi, j'ai l'impression qu'il est très content.
Et lui, il a fait un peu de musique dans sa vie. Il est plutôt batteur.
C'est justement ça le problème. C'est que les pires personnes sont celles qui savent à moitié. Et un batteur... Moi, je veux bien, mais c'est quand il peut nous expliquer ce qu'il voit à la batterie, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Un batteur amateur, j'entends. Michel, lui, c'est un type qui a beaucoup de goût pour beaucoup de choses, pour la musique. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, évidemment. Mais je ne crois pas qu'il puisse nous aider sur le plan du style, quoi. Évidemment, il peut nous dire si je vois un truc comme ci, comme ça, qu'il a déjà entendu. Mais il ne peut pas nous aider sur le plan de la. Comment on écrit des cordes, comment on. Enfin, voilà, quoi.
Qu'est-ce qui vous inspire éventuellement dans un film? Est-ce que c'est parfois il y a des compositeurs qui disent que c'est tout, la lumière par exemple, alors que c'est pas bon. Ou je pense à Bruno Coulet par exemple que vous connaissez, je crois, qui dit souvent que la lumière l'inspire. Ou est-ce que c'est les acteurs, l'histoire, je ne sais pas, l'univers du metteur en scène?
Curieusement, quand j'aime bien aller sur les tournages, et dans les tournages, les personnes qui m'inspirent sont les techniciens. Vraiment discuter avec eux, ça m'apporte beaucoup sur le film.
Jean-Claude Vanier.
Les comédiens, bon, ils jouent leur truc. Mais quand je les vois en dehors des scènes, c'est plus des. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages, c'est pas eux. Enfin, ils m'intéressent en tant que personne, bien sûr, mais c'est pas eux qui me renseignent sur le film. Tandis que les techniciens sont beaucoup plus sur le coup. Et ce que je pourrais dire, ce qui m'inspire sur le film, je fais un peu à ma sauce quand même. Je me mets pas à plat ventre devant l'image de telle façon à la servir parce que ça, au bout du compte, ça devient un peu pléonasmique. Je sais pas si ça se dit. De toujours mettre des musiques tristes quand c'est triste, des musiques, etc. Moi, j'essaie de faire des trucs un peu comme si je connaissais déjà le film avant les autres. Je raconte l'histoire à ma façon et je connais déjà la fin. C'est ça, un peu ça. C'est ce qu'on pourrait dire que la musique, comme je l'entends moi, c'est ce que ne disent pas les acteurs. C'est pour ça que j'aime bien dans certains films américains qu'on voit très peu, mais que Gondry a l'habileté de faire des scènes assez longues, une longue ça veut dire 30 secondes, une minute, hein, c'est déjà très très long dans un film, où l'acteur ne dit rien, et où il arrive, il marche sur une route par exemple, ça prolonge sa pensée. Et là, il y a une musique qui devrait non pas faire boum, papam, papapam, mais qui traduit ce qu'il pense. Une espèce de méditation comme ça. J'ai remarqué dans les films américains, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et dans le dernier film de Gondry, il y a des passages comme ça aussi.
Thank you.
Vous entendez à l'instant un extrait de la musique d'un film qui s'appelle Je m'appelle Victor, pour lequel Jean-Claude Vanier donc il signait Guy Jacques et pour lequel Jean-Claude Vanier avait signé donc le score, comme on dit. Jean-Claude Vanier, c'était notre invité ce soir et c'est terminé en tout cas pour cette partie d'émission. On l'a écouté également la musique totalement inédite et en avant-première mondiale, je pense, du générique du début de Microbes et Gasoil, le prochain film de Michel Gondry, également un extrait de la bande originale de La Tour Montparnasse Infernale de Eric Aramzi. Donc Eric Judor d'ailleurs préparant son tournant à tourner son prochain film d'ailleurs, ça s'appelait Ça y est, pilote d'hélicoptère, et c'était un peu un pastiche de musique de films d'action américaine que on entend parfois également dans Cinéma Song. Jean-Claude Vanier, donc voilà, c'était, je rappelle que on peut le retrouver également sur l'émission de Laurent Valérou, Le Temps d'une chanson, la semaine dernière, donc en streaming ou en podcast. Et je voudrais remercier Stéphane Lerouge et Jean-Claude Vanier d'ailleurs également, qui m'ont fourni des musiques rares et même parfois inédites que vous avez pu entendre ce soir. Et maintenant, c'est l'heure d'aller sur la croisette à Cannes et de retrouver notre chroniqueur mensuel, Benoît Basirico, au micro de Cinésique spécial Cannes. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Benoît, vous êtes au festival donc depuis le début. Vous allez nous dire un peu, en attendant de parler de manière plus précise de certains des films que vous avez aimés dans chacune des sélections de Cannes, vous allez nous donner peut-être un peu le parfum général de ce festival qui s'achève dimanche. Comment ça s'est passé, comment ça se passe musicalement, cinématographiquement?
Et donc oui, une chronique particulière, puisque donc depuis deux semaines quasiment, je suis à Cannes pour arpenter la croisette de salle en salle, 3 à 4 films par jour, et des rencontres palpitantes avec des compositeurs, pour Cinésique donc, et pour les films, sans parler de musique tout d'abord, c'est quand même un Cannes des déceptions, ou en tout cas des films inattendus, qu'on n'attendait pas. Alors les films qu'on attendait, comme Gus Van Sant, déçoit de manière unanime. Pour ce qui est du film de Valérie Donzelli, ça déçoit aussi la presse internationale, et d'ailleurs apparemment la presse internationale est unanimement critique pour la première fois depuis très longtemps. Il y a une telle unanimité contre un film à Cannes, donc pour Marguerite et Julien de Valérie Donzelli, et pour le Gus Van Sant. Donc ça c'est pour les déceptions. Après il y a des films honorables de réalisateurs qui étaient attendus, comme Nanni Moretti, qui fait un mélodrame très 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 tenu, où Nanni Moretti incarne un fils d'une mère mourante, et c'est sa sœur dans le film qui incarne la réalisatrice, alors que d'habitude Nanni Moretti a plutôt l'habitude d'incarner lui-même le réalisateur dans son propre rôle, donc.
Enfin, sa sœur qui est quand même interprétée par une comédienne, Margarita Bouille.
Voilà, tout à fait. Il y a aussi Matteo Garrone qui m'a un peu déçu pour Tale of Tales. Donc voilà pour les films attendus qui étaient en compétition. De manière générale, ce sont surtout des surprises, enfin des films qu'on n'attendait pas, qui m'ont plutôt plu. Par exemple, Alice Finocourt, qui se révèle réellement avec Maryland à un certain regard.
On va en reparler tout à l'heure, oui.
Oui, pour ce qui est de la scène de la critique, donc je parlerai pas du film que l'on va évoquer tout à l'heure, mais il y a des films comme Ni ciel ni la terre qui étaient très très réussis de Clément Cogitor, et pour également à l'acide, un film choc qui m'a vraiment beaucoup plu, une vraie révélation, Crash Cœur, donc à l'acide, qui est un film sublime d'une femme d'origine polonaise, Julia Kowalski.
D'accord. Bon, ben, on ira le voir quand il sortira en France. On espère qu'il va sortir d'ailleurs. Et alors donc, vous avez choisi quelques musiques qui vont évoquer précisément des films que vous avez choisis également. Alors d'abord, en compétition, vous avez choisi notamment de nous parler du film de Todd Haynes, Carole, d'après le roman de Patricia Highsmith, avec Cate Blanchett et une musique de Carter Burwell.
Tout à fait. Alors pour survoler rapidement la compétition, je peux citer quelques compositeurs qui y étaient présents. Tout d'abord donc Alexandre Desplat, qui retrouve son réalisateur italien sur donc Tale of the Tales, Matteo Garrone.
N'est pas avec Jacques Audiard. Également...
Et donc Jacques Audiard, lui en revanche, pour la première fois de sa carrière, ne collabore pas avec Alexandre Desplat et convoque un jeune, Nicolas Jarre, pour son film Vipane, d'ailleurs très réussi, que j'ai vu ce matin. Il y a L'Asie qui est en force avec des BO très 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 intéressantes de Lim Jung pour le film de KPDP, enfin de sabre de Hu Xiaoxian, The Assassin, et également asiatique, il y a le film de Jiazhen Ke avec à la musique Yoshihiro Anno pour Mountains May Depart, un super film également. A mentionné Johan Johansson, que Thierry d'ailleurs vous aviez rencontré à Gand et exact. On a pu entendre à l'antenne l'interview. C'est pour Sicario, film du Québécois Denis Villeneuve. Voilà pour les BO que j'aurais pu repérer dans la compétition. Et puis donc Carter Burwell qui retrouve Todd Haynes après différents films, notamment Mildred Pierce pour la télévision ou Velvet Goldmine. Tout à fait. Et donc là, c'est amusant d'ailleurs de repérer que Carter Burwell est le compositeur régulier des frères Cohen qui sont cette année présidents du jury, et donc les présidents du jury vont avoir l'occasion d'entendre la musique de leur ami Carter Burwell en compétition pour ce Carole, qui est un film très honorable, un mélodrame très tenu, classique, sans éclat. Alors on peut reprocher justement ce manque d'éclat.
On va peut-être en écouter un extrait, non, Benoît, pour se rendre compte également à Paris de ce que ça peut être la musique de Carter Burwell.
Tout à fait. Alors c'est un Carter Burwell, on va l'entendre, très proche de Philip Glass. Hein. Il pastiche un peu Philip Glass, on va l'entendre tout de suite.
D'accord. La musique donc de Carter Burwell qu'on entend encore un tout petit peu pour le film de Todd Haynes, donc Carole. On va évoquer également donc les autres sélections. Vous avez déjà un tout petit peu fait, Benoît, mais notamment Un certain regard. Vous avez choisi justement de nous parler du film d'Alice Vinocourt, Maryland.
Tout à fait. Alors je pourrais citer Martin Wheeler qui a signé le Je suis un soldat, ou Atli Horvarson qui a cité Bélier, super film. Mais j'ai décidé de vous faire écouter la musique de Geza Felstein pour Maryland d'Alice Winocourt, qui avait fait appel à Jocelyne Pouk sur Augustine, son premier film.
Il y a déjà un certain regard d'ailleurs.
Tout à fait. Et Geza Felstein, en fait, c'est de son vrai nom Mike Levy, un compositeur de musique électronique. Dans ce film, on entend donc une musique originale composée par cet artiste, mais également deux emprunts à son répertoire, voilà, issus de ses albums, ce que l'on entend là en fond, pour ce thriller haletant, assez enthousiasmant, je dois le dire. Et cette musique électro me rappelle la petite claque que j'avais ressentie à la découverte de Drive à ce même festival.
D'accord, on l'écoute alors un peu.
Thank you.
Voilà, la musique du film d'Alice Vinocourt, Maryland. Je vous laisse redire le nom du compositeur, Benoît.
Gesaffelstein.
D'accord, donc ça donne envie en tout cas de voir le film et d'écouter la musique. On va passer à la semaine de la critique. Cette fois, vous avez choisi en tout cas parmi les autres films, le film de Louis Garrel qui s'appelle Les Deux Amis, avec notamment Vincent McCain et une musique de Philippe
Sard.
Voilà,
tout à fait. Alors, c'est un triangle amoureux assez déchirant, ce film. Et Louis Garrel est un grand fan de César et Rosalie de Claude Sautet. Et c'est d'ailleurs également un triangle amoureux. Et donc, c'est pour cela qu'il a fait appel à Philippe Sard, que l'on n'attendait pas forcément avec Louis Garrel. Un premier film, Philippe Sard était plutôt habitué de Tavernier. Il était déjà d'ailleurs venu à Cannes pour La Princesse de Montpensier dernièrement. Et là, il donc signe la musique de ce premier film. J'ai pu d'ailleurs appeler Philippe Sard pour une interview et il me dit que le titre du film lui convient bien, puisque avec Louis Garrel, ce sont devenus deux amis.
Bon, bah c'est une bonne nouvelle pour Philippe Sard et pour Louis Garrel. On écoute un extrait de cette musique de Philippe Sard. Un extrait un peu court malgré tout, mais on en reparlera sans doute à un autre moment du film de la musique de Philippe Sard pour le film de Louis Garrel. Et puis alors on n'a pas fait encore tout à fait le tour des sélections puisqu'il nous restait la quinzaine des réalisateurs où j'ai déjà évoqué le film d'Arnaud Desplechin en début de cette émission, puis également le film de Philippe Garrel dont on reparlera la semaine prochaine. Donc vous avez dû choisir d'autres films, un autre film que ces deux-là. Benoît.
Tout à fait. Alors, il y a pas mal de compositeurs dans la sélection de la quinzaine des réalisateurs qui appartiennent au répertoire, ce soit de la variété française, Jean-Louis Aubert, qui a signé la musique du Philippe Garrel, vous allez y revenir, mais également Anne Pirlet, qui est une chanteuse belge sur le Tout Nouveau Testament de Jacob van Dormael, ou encore Raphaël, le chanteur Raphaël, qui signe la BO des Cowboys de Thomas B. de Guin. Alors moi j'ai choisi de vous faire entendre cette BO de Warren Ellis, également issu de la scène, c'est le comparse de Nick Cave pour les Bad Seeds, et il a aussi signé des BO avec Nick Cave, notamment les films de John Hillcoat, et là il signe la BO du premier film d'une Turque, Deniz Gams Erguven, et le film est magnifique, c'est une sorte de Virgin Suicide.
Une jeune fille turque d'ailleurs qui avait fait la Fémis en l'occurrence.
D'accord. Et donc Mustang épate par cette manière de traiter le portrait de ses sœurs, un peu comme dans Virgin Suicide, ses sœurs enfermées dans leur famille qui veut les marier, leur imposer un mariage. Et la dernière des sœurs se rebelle, voilà, sans en révéler davantage de l'intrigue. Et la musique de Warren Ellis est apaisante, sereine, aérienne, là où le film est violent. Voilà, donc je vous laisse entendre.
Merci. Voilà Benoît, c'était trop court pour évoquer tout le Festival de Cannes, mais enfin on a eu quand même un parfum musical, et puis vous nous avez donné quelques éléments, donc on verra quels seront les résultats dimanche pour le palmarès en tout cas, et puis éventuellement voilà, les musiques sont pas toujours citées, même rarement, puisqu'il n'y a pas de prix de la meilleure musique, il faut le rappeler au Festival de Cannes, mais enfin bon, elles existent quand même grâce à vous, notamment dans cette chronique. En tout cas,
il y a un prix.
Oui, allez-y. Ouais.
Non, il y a juste un prix musique, en fait, le prix Cannes Soundtrack, qui est parallèle, évidemment, au palmarès.
Absolument, on aura les résultats, justement, samedi, je pense, quelque chose comme ça.
Tout à fait, je suis partie du jury, et du coup, je peux déjà vous dire quelques quelles sont les tendances, peut-être, mais en tout cas, il y aura le prix remis samedi.
D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Benoît, puis on vous souhaite une bonne fin de festival. Ne faites pas trop la fête et revenez en bon état de marche, puisque c'est assez fatigant, le Festival de Cannes. Je l'ai pratiqué un certain nombre d'années. Et merci au mois prochain, en tout cas, dans Cinéma Song.
Merci.
On va passer maintenant à une autre chronique. Pour terminer, on retrouvera d'ailleurs Warren Ellis, et c'est celle de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
La musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, alors dans l'actualité...
Vous n'étiez pas à Cannes, vous, donc.
Non, je n'étais pas à Cannes, justement. Je suis avec vous, d'ailleurs, dans
absolument
ce studio.
Je vous vois.
Et justement, alors il pourrait y avoir une petite concordance avec Cannes ce soir dans cette chronique, puisque justement, eh bien, la BO dont je compte vous parler ce soir, la première BO, c'est celle du film Loin des Hommes, donc de David Olehofen, dont la musique a été composée par Nick Cave et Warren Ellis, dont vient de nous parler justement Benoît Basirico. La seule chose, c'est que ce film est sorti le 15 janvier et la bande originale, elle, n'est sortie que mardi dernier. Donc on peut enfin se la procurer pour tous les fans de Nick Cave et Warren Ellis, et ils sont nombreux. Pour ce film, donc, il faut le rappeler, qui est adapté d'une nouvelle d'Albert Camus qui s'appelle L'Hôte, et donc ce film qui est Loin des Hommes retrace l'histoire d'un instituteur en Algérie qui est chargé en fait d'escorter un prisonnier à travers les montagnes, et donc des liens se tissent entre ces deux personnages. Alors la bande originale est de Nick Cave et Warren Ellis. On retrouve vraiment toute l'ambiance justement qui est propre à ces deux compositeurs, qui sont vraiment d'abord des musiciens avant d'être des compositeurs, même si maintenant ils commencent à avoir un grand nombre de films à leur actif, notamment La Route, Dias de Gracias, Des Hommes sans Loi. La bande originale justement, eh bien, de Loin des Hommes ne surprendra pas forcément beaucoup par son innovation par rapport justement à leurs précédentes bandes originales, mais elle rejoint vraiment les meilleures bandes originales qu'ils ont pu composer, notamment une en particulier, celle de The Proposition, film de John Hillcoat qui était sorti en 2005. On retrouve vraiment le Warren Ellis et le Nick Cave que l'on connaît dans des tempi justement très lents, des musiques planantes donnant une atmosphère accablante, mystique et magnifique vraiment. Alors c'est la musique de Kev et Ellis, pardon, est inspiré en grande partie par ces paysages désertiques que l'on voit dans le film, qui sont tournés au Maroc, même si le film se passe en Algérie. On retrouve là encore justement un point d'accroche avec The Proposition, où là c'était le désert australien évidemment qui les avait inspirés. Mais surtout en fait, le réalisateur, donc David Olehofen, voulait des instruments acoustiques au départ. Puis finalement il a dit à Warren Ellis et à Nick Cave, non, peut-être faites comme vous le souhaitez tout simplement. Et eh bien ce que l'on a à la place, c'est des cordes en boucle vibrantes, avec des solos de violon plaintif, du piano, guitare mixée souvent avec des sons électroniques, de vibraphone et des sonorités de vent et de bulles de champagne désaccordées, comme dit Warren Ellis.
Thank you.
un extrait de la bande originale du film Loin des Zones, donc Far From Men, composé par Nick Cave et Warren Ellis. Le réalisateur d'ailleurs ne voulait pas de musique algérienne traditionnelle, et le résultat est vraiment magnifique, parce que justement, eh bien, quand on utilise trop ces musiques un peu typiques, on tombe souvent sur des poncifs dont on a l'habitude. On retrouve ça par exemple dans les films de James Bond, mais là c'est vraiment superbe. C'est une BO donc qui est disponible en digital donc depuis le 19 mai chez Goliath Entertainment. Et puis donc dans un registre, alors là cette fois-ci totalement différent, il y a la bande originale du film Tomorrowland, donc À la poursuite de demain, film de Brad Bird, donc que l'on connaît pour Ratatouille, Ghost Protocol, les Indestructibles. Il a travaillé avec son compositeur attitré qui est Michael Giacchino. Et alors là c'est vraiment un mode opératoire très différent de Warren Ellis et Nick Cave,
j'imagine.
Et donc alors là, Giacchino, il n'est pas inspiré tellement par les déserts ou enfin par les paysages. Au contraire, lui, ce sont les personnages, ce que les personnages ressentent, ce qui les motive, c'est ce qu'il essaie de savoir. Et donc, il aime bien faire ses musiques avec justement à chaque fois quelque chose d'assez spécifique sans s'inspirer d'autres musiques. Et pourtant, eh bien, Michael Giacchino, dans ce film, sa musique ressemble quand même beaucoup pour moi à celle de John Williams. C'est plus d'ailleurs, pour ce qui est des mélodies, le John Williams des années 90, c'est-à-dire Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan. Et puis, par contre, pour l'orchestration, il y a des passages de cette BO qui sont assez intéressants. Et là, pour le coup aussi, ça rappelle un petit peu la musique de Williams, mais là, c'est plus E.T., Star Wars épisode 4. C'est pas du tout le même genre de musique, surtout que là aussi, Michael Giacchino, il fait pas comme Warren Ellis et Nick Cave, il travaille chronologiquement. Et il aime bien, justement, que ses bandes originales, quand on les écoute, eh bien, rappellent chaque instant du film, comme ça, de manière très chronologique aussi. Voilà, c'était un extrait de la musique de Tomorrowland composée par Michael Giacchino. C'était What a Eiffel. Donc quel Eiffel, parce qu'effectivement il y a un passage dans le film où ils sont sur la tour Eiffel. Donc voilà Thierry, vous saurez tout. Et la bande originale est sortie chez Walt Disney Records depuis donc le 19 aussi mai.
Voilà. Bien, merci Charles-Pierre pour ce contraste bien géré. Et on vous retrouvera la semaine prochaine donc pour une nouvelle chronique essentielle BO. J'étais ce soir, c'est terminé, donc presque ou presque, et on entend encore Michael Giacchino en fond. Dorothée Gold m'accompagnait pour cette émission. François Pron, Jean-François Souvilly étaient présents ce soir. Également José Bernays à la technique. Et bien sûr, l'imparable Bruno Rioumaillard réalisait cette émission. Cinéma Song. La semaine prochaine, on parlera de Claude Bolling, donc un univers assez différent, à l'occasion de la sortie d'un triple CD qui reprend beaucoup de ses musiques de films.